Vous êtes sur RTL.
La parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Faut-il mettre en place un passeport vaccinal pour permettre aux personnes vaccinées de pratiquer certaines activités, pour aller au restaurant, par exemple, au théâtre? Nous sommes avec Catherine, oui ou non? Bonjour.
Oui. Bonjour Pascal, moi je suis pour à 100% et dès que je vais me faire vacciner.
Eh bien, nous allons continuer cette discussion dans une seconde. Le rappel des titres, Christelle.
Plus de 1000 personnes en France ont été infectées par le variant anglais du virus, beaucoup plus contagieux. C'est une nouvelle course de vitesse qui s'engage. Un conseil de défense a eu lieu ce matin à l'Élysée. On saura demain quelles nouvelles restrictions auront été prises. Le nombre de départements sous couvre-feu à 18h devrait être élargi. À l'étranger, l'Irlande est désormais le pays où le virus se répand le plus vite. Aux États-Unis, on a battu un record de décès en 24 heures avec plus de 4000 morts. En Italie, s'est ouvert ce matin en Calabre le plus grand procès anti-mafia depuis une trentaine d'années, sous la houlette du célèbre procureur Nicola Gratteri. 350 membres présumés de la 'Ndrangheta sont jugés, des voyous mais aussi des élus locaux, fonctionnaires, policiers et autres entrepreneurs.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle, restez avec nous parce qu'il y a une question qu'on n'avait pas imaginée dans les auditeurs, mais à la fin de votre journal, vous l'avez développée, c'est cette affaire de jambon rose.
Oui.
Non mais vous souriez, mais moi ça me paraît essentiel parce que j'ai toujours mangé du jambon rose. Donc ce serait une révolution culinaire si mon jambon n'était plus rose.
Oui, mais...
Donc on va poser la question quand même aux auditeurs.
Il y aurait peut-être plus de goût aussi.
Vous pensez?
Moi je pense.
Parce qu'en fait, ça peut créer...
Ah oui, je pense que ça joue aussi sur le
bon,
goût.
Bon, donc la question, on va la poser aux auditeurs. Est-ce que vous êtes favorable à la fin du jambon rose, qui est une question existentielle, si vous me permettez? Non, ne serions pas. 13h02. Merci Christelle. Merci Catherine. Donc nous vous retrouvons Catherine. Pourquoi vous êtes pour le passeport vaccinal?
Alors je suis pour le passeport vaccinal parce que je pense que si tout le monde ne s'est pas vacciné, enfin au moins 80% de la population, nous n'allons pas sortir de ce virus.
Non mais je suis d'accord avec vous, mais d'abord on peut considérer effectivement que c'est une bonne chose pour retrouver une vie, classique, normale, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est une liberté qui est enfreinte?
Écoutez, moi je travaille dans un EHPAD. Les personnes âgées meurent de solitude. Il faut qu'on se dise la vérité. Les visites sont compliquées. Une personne qui se rend chez son ophtalmo, chez son dermato, est isolée pendant 7 jours, mis à l'isolement. Si elle a été déjeuner à Noël le 25, comme c'était permis dans certaines EHPAD, isolement encore pendant 7 jours, enfin, au bout d'un moment, c'est à devenir fou.
Je suis d'accord avec vous, mais vous ne leur répondez pas vraiment, là.
Ben,
la réponse, c'est ceux qui disent, moi, je ne veux pas me faire vacciner, soit parce que j'ai peur, soit parce que je ne suis pas à risque, soit parce que c'est ma liberté.
Moi, je ne pense pas que les personnes âgées, vous savez, on n'est pas des personnes en moyenne 80, 90 ans. Ils ont connu les bienfaits de la vaccination.
Oui, mais eux, ils vont peu au restaurant, ils vont peu au cinéma. C'est les gens des EHPAD, vous les vaccinez pour le coup, pour eux. Le passeport vaccinal, c'est pour reprendre une vie normale.
Alors,
donc, c'est pour des gens qui sont plutôt, a priori, en bonne forme. C'est vous et moi.
Ben, moi, je n'irai pas déjeuner avec quelqu'un qui ne serait pas vacciné, qui n'aurait pas le passeport vaccinal. Je n'irai pas déjeuner avec ou avec elle.
Ah oui, c'est-à-dire que quand vous allez faire un dîner maintenant chez vous, quand vous allez appeler vos amis, quand on va reprendre une vie normale, vous leur demanderez s'ils sont vaccinés.
Évidemment.
Ah oui, donc c'est... Ben non, mais vous avez forcément raison pour vous, comme dit l'autre, mais c'est vrai que c'est... Je pense que vous êtes la première, par exemple, c'est intéressant, vous êtes la première qui dit ça sur l'antenne depuis que nous faisons l'émission.
Ah,
c'est-à-dire que les gens qui rentreront chez vous doivent être vaccinés.
Alors, qui rentreront chez moi, pas forcément, mais qui rentreront chez moi pour un dîner, un déjeuner, une soirée, et ainsi de suite. Nous devions faire un anniversaire samedi dernier. J'avais imposé qu'on fasse le test antigénique. Les personnes qui n'ont pas voulu, j'ai vu que la majorité n'ont pas voulu faire le test, je ne suis pas allée à l'anniversaire.
Bah écoutez, là encore, fameuse réponse, vous avez forcément raison pour vous. Et dans le temps, on disait « mettez patins », et aujourd'hui, on dira « fais ton vaccin » quand on rentre dans une maison.
Exactement.
Non, mais Catherine, vous êtes prudente. Vous êtes d'un tempérament prudente.
j'ai 50 ans, on a cette possibilité d'avoir ce vaccin. Enfin, je ne vois pas pourquoi, parce qu'on entend tout et rien sur ce vaccin, qu'on va nous injecter des puces, machin, des ci, des ça. Au bout d'un moment, je crois qu'il faut descendre. On est... Oui, en effet, on n'a peut-être pas le recul nécessaire pour savoir un petit peu les méfaits ou les effets secondaires et ainsi de suite. Mais entre ça et vivre comme aujourd'hui et avec ce qui nous attend encore demain, quand à 18h, Musée Castex va parler, couvre-feu à 18h, tout ça, enfin, je ne sais pas, mais si vos auditeurs ou la population générale aient un peu de bon sens, on ne va pas continuer à vivre comme ça.
Vous avez raison, c'est que le passeport vaccinal est une solution, effectivement, qui permet de rouvrir immédiatement des restaurants, puisque si vous êtes vacciné, si vous avez les gestes barrières, et si, pourquoi pas, vous avez un masque, dans les restaurants, c'est le cas, mais aussi dans les musées, dans les cinémas, dans les théâtres, à ce moment-là, le risque de contamination devient nul, disons-le.
Quasiment, oui.
Bon, écoutez, merci beaucoup, Catherine, de ce premier témoignage. Nous allons marquer une première pause. Nous saluons Damien Béchiot.
Bonjour, Pascal.
Qui
bonjour
est là aujourd'hui. Monde. Bonjour, cher Damien. Vous avez vu, hein, si vous voulez aller dîner chez Catherine un soir.
Oui, la piqûre.
Écoutez.
Dans le bras.
Oui, je vous en prie. Mais en tout cas, effectivement, il faut être vacciné. Voilà. Et pourquoi pas? Ça sera Pourquoi ça. La première chose, à nos amis, on leur demandera est-ce que tu es vacciné avant de venir chez
le repas vaut le coup après, quand même.
Ah, écoutez, après, on ne sait pas. 13h07, la pub, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
J'ai découvert cette information essentielle en fin de matinée avec Christelle Robière. Un rapport parlementaire présenté mercredi recommande le bannissement progressif d'ici à 2025 des nitrites, ces additifs controversés utilisés dans les charcuteries pour allonger les durées de conservation, mais soupçonnés de favoriser l'apparition de certains cancers. C'est ce qu'a dit en tout cas lors d'une audition Axel Kahn. Simplement, on est habitué à manger du jambon rose depuis la nuit des temps. Eh bien moi, j'aimerais bien avoir un charcutier, figurez-vous. Je ne sais pas s'il nous écoute.
L'appel est lancé
et qu'il nous dise ce qu'il pense de cela. Puisque de quelle couleur alors serait le jambon? Il serait blanc?
Pas forcément blanc.
Il serait gris,
oui, voilà.
Gris?
Mais pas rose. Rose, c'est la présence des nitrites.
Oui, bien sûr. Donc on aurait du jambon gris.
Moi,
ouais. Jadis, on mangeait du jambon blanc. C'est du jambon blanc, mais c'est pas drôle. Donc moi, ça me paraît un sujet intéressant. Et donc on va pouvoir demander aux uns et aux autres ce qu'ils pensent de cela. Si évidemment ça favorise le cancer, c'est pas utile d'utiliser des colorants. Laurent Tessier, bonjour.
Et nous attendons, bonjour Pascal, bonjour à tous. Et nous attendons dès maintenant au standard. Nous reprenons aussi le sujet qui vous fait réagir au 3210 et sur la page Facebook de l'émission. Faudrait-il mettre en place un passeport vaccinal pour reprendre une vie normale? Eh bien, il existera un jour, écrit Thierry sur la page Facebook de l'émission. Bah, sinon, on ne s'en sortira jamais. Quand vous voulez aller dans certains pays, vous devez avoir des vaccins. Pareil, par exemple, pour les enfants à la crèche. Ce serait une bonne chose d'un point de vue économique, nous dit Nico, mais au niveau éthique, bah, je trouve cela un peu limite. Du grand n'importe quoi pour Véronique. Johanna parle, elle, d'une discrimination. Anaïk sent une vaccination forcée si ce passeport arrivait. Et arrêtez de tout critiquer, demande Isabelle sur nos réseaux sociaux. Je veux, oui, reprendre une vie normale au plus vite.
Alors, Mickaël est avec nous. C'est le deuxième intervenant sur le passeport vaccinal. On sera également avec Geoffrey, puisque Geoffrey est contre le passeport et Mickaël est pour. Alors Mickaël, pour commencer, bonjour, vous êtes restaurateur à Paris.
Oui, bonjour Pascal. Alors je suis pour, oui et non, parce que non, pourquoi? Sélectionner sa clientèle pour voir à l'entrée si elle doit avoir son passeport, c'est pas mon but. Moi je suis restaurateur, j'accepte tout le monde. Je ne fais pas de sélection de clientèle dès le départ si vous êtes vacciné ou pas. Un client qui vient, qui n'est vacciné, ok, il va rentrer. Et mon client qui vient d'habitude pendant des années, qui n'est pas vacciné, je vais lui dire, bah non, vous rentrez pas aujourd'hui. Donc c'est un client qui va dire, qui va repartir, qui reviendra pas. Ce n'est pas à moi de faire le tri dès le départ s'il veut faire vacciner ou pas. Ce n'est pas le but. On va quoi? Leur mettre une étoile? Ça va rappeler une histoire ancienne? On va mettre des étoiles pour
Mickaël,
ceux qui...
Mickaël, non, faut pas dire ça, là. Oui, permettez-moi simplement le... Faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Vous voyez, c'est un thème trop grave, ce qui s'est passé en 40 ou en 42, exactement. Plus exactement d'ailleurs, pour faire un parallèle.
Voilà, moi,
je veux dire, on peut avoir un passeport vaccinal sans sortir immédiatement la comparaison avec celle que vous venez de faire. Pour rentrer dans un avion, parfois, il faut un test PCR.
Voilà, mais on n'est pas obligé. Mais aujourd'hui, on est quand même un pays libre. Le client, moi, qui n'est pas vacciné, je l'accepterai comme tout le monde.
Donc vous êtes contre?
Je suis contre.
Mais je pensais que vous étiez pour, c'est pour ça?
Non, je disais que, si on peut ouvrir les restaurants, moi, le but, c'est d'ouvrir les restaurants.
Bah, oui, mais vous êtes pour ou vous êtes contre?
Non, je suis contre pour demander à mes clients.
C'est un passeport vaccinal qui ne serait pas pour vos clients. Il serait pour qui, alors?
Non, je veux dire, c'est pas à nous de demander à nos clients s'ils doivent être vaccinés ou pas. C'est notre travail. Je suis contre, bien sûr que je suis contre. On nous a demandé, dès le départ, de prendre les coordonnées de nos clients. On l'a fait. Aujourd'hui, on nous demande de sélectionner notre clientèle s'ils ont été vaccinés ou pas. La troisième fois, on va nous demander quoi encore?
Non, c'est-à-dire que, si vous me permettez, on ne vous demande pas cela. C'est pas à vous qu'on vous demande pas de sélectionner vos clients. On demande à ceux qui entreront dans des endroits publics, restaurants, musées, cinéma, etc., d'être vaccinés.
Et s'ils sont pas vaccinés?
Ben ils rentrent pas.
Ça veut dire qu'ils repartent. Ils rentrent pas.
Ils rentrent pas.
Donc on fait une sélection. Je suis désolé, c'est bien. On sélectionne dès le départ.
Vous avez raison, mais c'est pas vous qui ordonnez cette sélection, si j'ose dire. C'est pas de votre fait.
Oui, mais un client.
Vous, on vous demande de l'appliquer.
Ouais, on va l'appliquer, mais si je ne l'applique pas, je suis pas censé noter tous les clients qui ont été vaccinés. Je n'ai pas à remettre un carnet ceux qui ont été vaccinés.
Non, mais c'est vrai que concrètement, vous avez raison de dire que je vois bien, vous n'êtes pas flic, si j'ose dire, quoi, pour faire la police dans votre restaurant. C'est vrai, j'entends.
J'ai jamais sélectionné mes clients. Tout le monde est dans mon restaurant, j'accepte tout le monde. C'est pas maintenant, après, chacun sa décision.
Bon, vous êtes fermé actuellement, évidemment, dans Paris. Vous êtes dans Paris?
Oui, rue de Courcelles, on est toujours fermé. Je pense qu'on sera encore fermé un petit bout de temps. Qu'on vaccine déjà en France ceux qui veulent être déjà vaccinés, et ça sera déjà une première chose. Après, on verra après. Il faut arrêter de nous imposer, toujours imposer de plus.
Ben oui, mais on cherche des solutions en même temps. C'est ça qui est difficile. Par exemple, évidemment que c'est une contrainte, évidemment que c'est des libertés qui sont attaquées.
Dans les restaurants, on aurait pu mettre des plexiglas plus grands. À des tables, par quatre. Et voilà, le risque, il était ceux qui viennent au restaurant en famille, ils sont ensemble. Il y avait d'autres solutions.
Non, mais je suis d'accord, pour les restaurants, il faudrait rouvrir. Mais bon, visiblement, on prêche dans le désert. Merci, vous avez une idée d'ailleurs sur le jambon rose? Vous servez du jambon rose de temps en temps?
Moi, je suis contre qu'on a rajoute des colorants. Moi, dans la pâtisserie aujourd'hui, pour faire vendre de la pâtisserie, on rajoutait toujours du colorant pour que les clients puissent acheter, que ça fait de la couleur. Aujourd'hui, d'arrêter tous ces produits-là, ça reste naturel. Voilà, il faut.
Vous trouvez que c'est une bonne chose?
Mais bien sûr, c'est comme tout, il faut arrêter de rajouter des colorants dans tout vin. À la pâtisserie, vous verrez le nombre de. Pour faire croire qu'il y a des œufs, vous mettez du colorant jaune, donc ça, les gens sont contents, vous mettez moins d'œufs, et sauf que, ils sont contents, c'est jaune, c'est beau, mais ça n'a pas de goût, ça porte pas de goût, c'est juste pour une question de vente. Voilà, c'est pas une question.
C'est du marketing. Merci, Mickaël, merci beaucoup. Vraiment merci.
Merci.
Geoffrey, pompier, il habite Lille. Bonjour, Geoffrey.
Bonjour, Monsieur Pro, merci de me laisser la parole.
Je
vous écoute régulièrement, également à la télévision, et j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à comprendre ce qui se passe. En fait, on sait qu'on a une majorité de Français qui ne souhaitent pas se faire vacciner.
Non, c'est plus vrai. Si vous me permettez, je vous interromps tout de suite, c'est plus vrai. C'était vrai, et maintenant on est à 55-45 de gens qui ont envie de se faire vacciner.
À force de marteler les gens, effectivement, je pense que les gens commencent à changer d'avis parce qu'ils en ont marre et on leur dit qu'en fait, ils n'auront pas le choix. On sait qu'aujourd'hui, ce vaccin ne nous permettra pas d'éviter la contamination d'autres personnes.
C'est pas vrai non plus ce que vous dites. Si vous me permettez, Axel Kahn, généticien, dit le contraire.
Oui, mais c'est une personne qui dit ça.
Je n'écoute pas
qu'une seule personne.
Je ne sais pas qui vous écoutez, mais il y a parfois des prudences qui sont mises en place. Et pardonnez-moi encore de vous couper, parce que c'est l'émission pour les auditeurs. Mais Olivier Véran est prudent là-dessus. Il n'y a pas d'études, etc. Mais Axel Kahn, qui est généticien, dit à partir du moment où on diminue à ce point la charge virale dans un organisme, on ne peut plus contaminer. Et je lui fais plutôt confiance pour tout vous dire, parce qu'il connaît ça depuis toujours.
À la limite, on pourra lui faire confiance. Bon, pour Monsieur Véran, qui a déjà tenu des discours avec tout et son contraire, je passerai sur ce point-là. Moi, je vous dis aujourd'hui que je suis dans le fond de con, on est 130 personnes, et il y a peut-être une poignée de personnes, dont certains ont plus de 50 ans, qui sont en train de se poser la question s'ils vont se faire vacciner ou pas, et le reste ne souhaite pas se faire vacciner. Et ce que je regrette, c'est qu'en fait, les personnes qui vont se faire vacciner vont montrer du doigt en faisant des belles propagandes en disant moi je suis responsable, je me vaccine, sous-entendu que celui qui ne se fera pas vacciner ne sera pas quelqu'un de responsable. Moi aujourd'hui je suis quelqu'un de responsable, je ne souhaite pas vacciner, ça fait partie de mes droits fondamentaux, je suis encore dans un pays libre et je n'ai pas envie d'avoir un gouvernement ou des gens qui vont passer leur temps à me montrer du doigt parce que eux auront décidé de se faire vacciner. Voilà. Et donc aujourd'hui quand on veut faire vacciner un maximum de population, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on commence par faire vacciner le personnel soignant, les personnels intervenants, et les gens qui ne sont pas dans ce milieu vont se dire « Oh, bon, bah, si eux se font vacciner, on peut y aller. » Alors que peut-être qu'on ne va pas nous laisser le choix, parce qu'on nous dira « Vous avez le choix de ne pas vous faire vacciner, parce qu'on est dans un pays libre. Par contre, si vous ne vous faites pas vacciner, vous ne pourrez pas venir sur votre lieu de travail. » Et c'est cette dérive-là qui me fait peur. Et donc, aujourd'hui, j'ai pris la décision de ne pas me faire vacciner, et je n'ai pas envie d'être montré du doigt, parce que je ne suis pas un renégat, je ne suis pas quelqu'un d'irresponsable, j'ai juste pris mon libre arbitre et j'ai décidé de ne pas me faire vacciner. Si on voulait vraiment aujourd'hui faire comprendre aux Français que c'est véritablement la solution, on commencerait par la maison de retraite qui coûte la plus chère aux Français, j'ai nommé celle du Sénat. Parce que quand ces gens-là arrivent quelque part, c'est des dieux, on leur déroule le tapis rouge, s'ils sont si importants que ça, les premières personnes à protéger, c'est eux. Et quand on aura eu cette responsabilité politique qui sera mise en avant, alors là, peut-être que je commencerai à changer de d'avis.
Bon, d'abord, vous avez parfaitement le droit de ne pas vous faire vacciner. Vous n'êtes pas un renégat et personne ne vous montrera du doigt. Simplement,
pour
vous allez rester... Non, mais personne. Simplement, vous allez rester avec nous parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous ne voulez pas vous faire vacciner. C'est ça qui m'intéresse. Et... dites-le avec franchise, si vous avez peur, par exemple, ce qu'on peut comprendre, pourquoi pas, on peut toujours tout comprendre. À ce moment-là, dites-le. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres raisons et c'est ça qui nous intéresse. Après la pub, bien évidemment, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Geoffrey est avec nous, il a 39 ans, il est contre le passeport vaccinal, il ne souhaite pas se faire vacciner. Vous savez, Geoffrey, à 19h15 ce soir, il y a une émission pour vous sur RTL. Entre 19h15 et 20h, c'est la journée spéciale vaccination sur l'antenne. Et là, avec Thomas Soto, c'est une émission spéciale vaccination. Et il y aura des scientifiques, des médecins. Et ce que je vous propose d'ailleurs, c'est qu'on vous rappelle pour que vous puissiez... pourquoi pas émettre vos doutes et leur poser des questions. Mais aujourd'hui, pourquoi vous refusez l'idée de vaccination?
En fait, aujourd'hui, la raison déjà la première, je voulais vous dire, je ne suis pas un anti-vaccin, hein, parce que j'ai fait vacciner mes enfants, je me suis moi-même fait vacciner pour la fièvre jaune lorsque j'ai eu l'occasion d'aller en opération extérieure. Quand j'étais pompier de Paris, je me fais la grippe tous les ans. Aujourd'hui, la raison pour laquelle je ne souhaite pas me faire vacciner, c'est que c'est un gouvernement qui met la pression sur le vaccin et pas sur le traitement préventif, hein, sur le côté médicament. Et on a tellement eu tout et son contraire. Ce même gouvernement nous disait que le masque ne servait à rien. Ensuite, en Utibet, il nous disait « on va pas fermer les écoles, je ne sais pas mettre un masque, c'est quelque chose de c'est un geste un geste particulier, alors que 6 mois plus tard, on demande à des gamins de 6 ans d'en mettre un. On a quelqu'un qui nous disait également, qui était ministre, Madame Buzyn, qui nous disait que c'était qu'une grosse grippe. Aujourd'hui, ce gouvernement, il peut m'avancer ce qu'il veut.
Mais c'est pas le gouvernement qui a fait le vaccin, c'est ça qui est fou.
Mais il met la pression.
Il met la pression de. J'ai envie de dire, il propose cette solution comme une sortie de crise possible, mais c'est pas le gouvernement qui a fait le vaccin quand même. Et puis même, c'est pas un argument. Je veux dire que le gouvernement fasse pression, il pense que c'est une bonne solution. Si c'est une bonne solution, si elle est fiable, si elle est sécurisée, si elle est sanitairement intéressante.
S'ils sont tellement sûrs que ce soit une bonne chose, qu'ils nous fassent...
Tout le gouvernement se vaccine, et si toute l'Assemblée nationale se vaccine, et si tout le Sénat se vaccine, vous vaccinez derrière.
Et là, je me dirais, on peut y aller, il n'y a pas
d'accord.
de souci.
Et bien moi, je pense que c'est intéressant ce que vous dites.
Ils ne prendront pas de risque pour eux.
Ah, vous pensez qu'il y a un risque, donc?
Ben, bien sûr.
Oui, attendez, ben, moi, ça revient beaucoup, ça.
On a quand même créé un vaccin très rapidement. Mmh. On a quand même, on sait aujourd'hui que on ne connaît pas la durée d'immunité de ce vaccin. On sait également qu'on, vous me dites que non. Alors je vais vous croire qu'on ne pouvait pas, on pouvait quand même contaminer les autres. Donc là, vous m'avez dit le contraire, donc je vais vous croire.
C'est pas moi qui le dis, c'est Axel Kahn.
Oui,
à travers vous. Et moi, je n'ai pas confiance en ça. Et vous savez, j'ai une épouse qui est médecin urgentiste, qui au début m'a dit oui, je veux me faire vacciner. Quand elle a su que c'était l'ARN, elle m'a dit non, je ne me ferai pas vacciner. Et moi, la question que je me pose à chaque fois avant d'injecter un vaccin, c'est est-ce que je suis prêt ou pas à faire vacciner mes enfants? Je ne suis pas prêt à faire vacciner mes enfants avec ce vaccin, donc je ne me ferai pas non plus vacciner.
Geoffrey, ce soir, l'antenne vous appelle. L'ami Laurent Tessier est là en régie. Et ça va être un formidable témoignage pour nos amis médecins et scientifiques. Merci beaucoup, en tout cas, Geoffrey, de votre témoignage. On va être avec Sophie, qui est médecin, précisément. Donc, ça va être intéressant d'entendre son avis. Et en revanche, depuis le début de cette vaccination, il y a un thème qui revient régulièrement, c'est la défiance. Et pour contrer cette défiance, j'entends beaucoup d'auditeurs qui disent... Que le gouvernement se fasse vacciner, que l'Assemblée nationale se fasse vacciner, que le Sénat se fasse vacciner. Ce qui se passe d'ailleurs dans tous les autres pays, hein, parce qu'Obama a été vacciné aux États-Unis, en Angleterre, Boris Johnson, je crois, s'est fait vacciner, même s'il avait eu le Covid avant. Bref, il y a symboliquement, les leaders se font vacciner. Sophie, pour ou contre le passeport vaccinal ?
Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Écoutez, moi, je ne suis pas forcément pour le passeport vaccinal. Dans le sens où, alors j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Kahn, qui est un grand monsieur, mais après les papiers, la bibliographie qui sort, en fait, on ne sait pas encore si les gens sont porteurs ou non, qui peuvent être porteurs sains après avoir été vaccinés. Et je pense que les gens qui vont se faire vacciner vont avoir une certaine impression de toute puissance et de ne plus rien craindre et risque en fait de faire moins attention, d'avoir moins les gestes barrières, etc. Vous touchez quelque chose qui a le coronavirus, même si vous êtes vacciné, vous pouvez très bien le transmettre. Voilà, donc moi je suis pas tellement pour ce passeport vaccinal.
Bon, vous êtes médecin, mais vous avez confiance quand même en ce vaccin ?
Alors, je pense que pour les personnes âgées, les personnes à risque, le bénéfice est largement supérieur au risque. Donc, sans hésitation, je dirais oui pour toutes les personnes qui sont à risque, ne pas hésiter à le faire. Ça, c'est clair. Après, comme l'auditeur précédent, je suis pas sûre de faire vacciner mes enfants tout de suite. Je préfère avoir un petit peu plus de recul parce que ce vaccin...
Je rappelle que vous êtes médecin quand même, hein. C'est encourageant me dites.
Non, mais je sais très bien, j'en prends mes responsabilités. C'est une nouvelle technologie, on n'a pas beaucoup de recul. Donc voilà, pour nos enfants, peut-être soyons prudents, eux, ils ne risquent pas grand-chose. Après, il faut que la majorité
mais
de
vous,
la population...
Mais vous, vous ferez vacciner? Vous êtes médecin? Ah bon, vous allez vous faire vacciner?
Oui, je vais me faire vacciner.
Parce que vous êtes au contact en plus de... Vous êtes généraliste?
Oui, oui. Non, je suis spécialiste et je suis dans la bouche des gens toute la journée. Ça fait un an que ça dure, que j'ai continué à travailler. Je ne l'ai pas attrapé, j'ai fait bien attention. Néanmoins, voilà.
Lorsqu'on est dans la bouche des gens, comme spécialité?
C'est chirurgie maxillofaciale.
D'accord, voilà. Parce qu'on peut être dentiste également. Je sais qu'il y a beaucoup de dentistes qui nous écoutent.
Oui, donc voilà.
Parce que dans les cabinets, on nous écoute parfois, c'est ce qu'on me dit.
Voilà, nous, on se prend de l'eau dans la figure, du sang dans la figure, donc voilà, on est particulièrement à risque. Mais voilà, pour l'instant, je touche du bois, j'y ai échappé. Je me ferai vacciner, ça c'est sûr. Mais je pense qu'effectivement, exiger un passeport dans un restaurant, ça ne protège pas les personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt d'exiger ça pour tous les restaurateurs. Les gens prennent leurs responsabilités. S'ils veulent aller manger au restaurant, ils savent qu'ils peuvent l'attraper s'ils n'ont pas été vaccinés. Mais après, je vous dis, je ne suis pas sûre qu'ils ne peuvent pas être contagieux s'ils l'ont été. Donc voilà, prudence.
Merci beaucoup Sophie. Merci de cette parole nuancée à 13h27. On va marquer peut-être une nouvelle pause.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée.
Chirurgie, vous avez dit
maxillofaciale, tout ce qui touche le visage et la bouche.
Donc c'est des gens qui ont eu parfois un accident?
Un accident, des problèmes de lésions dans la bouche, etc. Donc voilà, on a le nez dedans toute la journée.
Courage, la pub à tout de suite.
jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier pour nous rappeler ce dont on va parler entre 14h et 14h30 notamment.
Un nouveau conseil de défense a eu lieu ce matin. 25 départements sont sous couvre-feu à partir de 18h. Êtes-vous favorable à cette mesure partout en France? Une chose est sûre pour Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique.
Il y aura probablement un certain nombre de mesures plus strictes à prendre.
Commerçant, chef d'entreprise, que pensez-vous de cette idée du couvre-feu à 18h dans tout le pays? Faut-il aller plus loin? Vous souhaitez un reconfinement national? 32-10. Faudrait-il mettre en place un passeport vaccinal pour reprendre une vie normale, aller au restaurant, à la salle de sport, au musée, au théâtre? Vous témoignez sur ce sujet depuis le début de l'émission. Comme Geoffrey, son choix est très clair.
Aujourd'hui, j'ai pris la décision de ne pas me faire vacciner et je n'ai pas envie d'être montré du doigt parce que je ne suis pas un renégat, je ne suis pas quelqu'un d'irresponsable, j'ai juste pris mon libre arbitre et j'ai décidé de ne pas me faire vacciner.
Un avis que ne partagera pas l'acteur François Berléand, invité aujourd'hui de la chaîne On Some People.
On est au pays de Pasteur, il y a des crétins qui pensent que le vaccin... Mais s'il n'y avait pas eu le vaccin contre la rage, il y aurait eu des milliers et des milliers de morts. Et il y a des crétins qui pensent qu'on ne doit pas se faire vacciner. Bah, tant pis pour eux, qu'est-ce que je vous dis? Des gens qui ne croient pas en la science sont des crétins, pour moi.
Le débat continue au 32-10. Nous serons à 14h avec Patrick Vignal, député La République En Marche de l'Hérault. Son nom, la charge contre le virus, ce sera son message dans l'émission.
Je suis étonné quand même de ce que dit François Berléand. C'est pas des crétins, c'est pas parce qu'on pense différemment de Monsieur Berléand qu'on est un crétin. Et on essaye dans cette émission et d'écouter tout le monde et de comprendre. Et évidemment, faut convaincre les gens. Pourquoi pas? Mais si vous leur dites que vous êtes un crétin, je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de les convaincre. John, vous êtes un crétin.
Oui, j'allais le dire justement. Bonjour.
C'est bonjour, John. Vous êtes un crétin, selon François Berléand, directeur école de musique. Ouais, c'est jamais bien de traiter comme ça les autres, comme ça, de les insulter. C'est curieux en plus de la part de Berléand de dire ça.
Je suis assez surpris d'entendre ce genre de propos et au contraire, je pense que voilà des gens.
C'est contre-productif.
Oui, c'est ça exactement. Ça ne fait pas avancer les choses, je pense. C'est pas ça qui.
C'est assez crétin en fait de dire ça finalement.
C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Tout à fait.
Bon, vous en revanche, vous n'avez pas envie de vous faire vacciner et pourquoi?
J'ai pas envie de me faire vacciner parce que pour l'instant, j'aimerais bien savoir juste sur quel pied on danse. Parce que je rejoins un petit peu ce qui a été dit avant, on voudrait exiger d'avoir un passeport de vaccin. Et avant, quand on a eu le premier confinement, qu'il y a eu le déconfinement, on a exigé aux restaurateurs d'investir dans du gel hydroalcoolique, d'investir dans ceci, dans cela. Et finalement, après, on fait machine arrière. Et puis là, on dit, on va mettre un passeport de vaccin. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'on nous dise clairement les choses au bout d'un moment. Moi, je suis intermittent du spectacle, je suis professeur de musique, je suis intermittent, je bosse pas depuis le mois de mars. Et j'attends qu'on prenne des décisions. Et au bout d'un moment, je suis désolé, mais s'ils veulent faire quelque chose, qu'ils le disent clairement.
Agissons
au bout d'un moment.
Non, mais sur la vaccination, on agit. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise de vaccination de masse qui est mise en place, même si elle a démarré lentement. Mais il n'y a pas d'ambiguïté sur la stratégie.
On nous dit pas clairement, faites-vous vacciner et on reprendra la vie normale. On nous le dit pas, ça.
On le devine, si on est tous vaccinés.
Ça fait des mois et des mois que j'attends, moi. Ça fait des mois que j'attends.
Et parce qu'il n'y avait pas de vaccin.
Mais il n'y avait pas de vaccin.
Il n'y avait pas de solution. En fait, le vaccin, c'est la solution. C'est ça que. On peut essayer d'expliquer les choses sans être comme François Berléand, mais d'expliquer quand même que la solution pour sortir de cette crise, puisqu'on ne soigne pas, c'est le vaccin.
Eh ben alors dans ce cas-là, j'espère que Monsieur Castex demain va nous dire, écoutez, faites-vous tous vacciner, on reprend la vie normale.
Mais c'est ce que fait Vladimir Poutine. Hein, il a ordonné une vaccination de masse, par exemple.
Oui, mais Vladimir Poutine, c'est pas le président, c'est pas la France. Moi, j'attends que chez nous on nous dise ça.
Ça n'a pas échappé.
Moi, j'attends qu'on nous dise ça, et c'est ce que j'ai dit. Moi, que une de nos têtes pensantes prenne la responsabilité de dire, écoutez, alors c'était, on n'avait peut-être pas voulu, on ne voulait peut-être pas forcément forcer les gens à se faire vacciner, mais la solution, c'est ça, et ce sera ça. Donc, si vous voulez reprendre une vie normale, il va falloir passer par le vaccin.
C'est implicite.
Comment ?
C'est implicite.
c'est implicite, mais au bout d'un moment, il serait peut-être temps juste d'être explicite et de dire les choses clairement. Parce que là, actuellement, on attend, monsieur Prochui. Je dirige une école de musique dans un village où tout se passe très très bien. Au mois de septembre, on a repris les cours avec des adultes et des enfants. Il n'y a pas eu de cluster, il n'y a pas eu de malade. Et là, actuellement, on nous a autorisé à ouvrir l'école de musique que pour les mineurs. Donc, quand est-ce que les adultes vont pouvoir revenir faire de la musique? Quand est-ce que on va pouvoir reprendre ceci, cela?
C'est vrai qu'on pourrait rouvrir des choses avec en respectant les gestes barrières, effectivement,
exactement,
me semble-t-il. Mais là-dessus, on est d'accord, mais vous avez un gouvernement qui ne prend pas de risques. C'est le principe de précaution poussé peut-être jusqu'à l'extrême. Donc, ce qu'on peut là aussi comprendre, puisqu'on peut toujours tout comprendre, mais ils ne veulent pas prendre de risques.
Bon. Ah bah oui, mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas prendre de risques, mais excusez-moi l'expression, mais pour beaucoup de corps de métier, pour beaucoup de personnes, on a le cul entre deux chaises, monsieur Pro. On n'en peut plus. Moi, je veux savoir ce qu'il faut faire, mais voilà, j'ai eu votre standardiste en fin de semaine dernière, il m'a dit, si on vous dit que vous faites vacciner et on reprend les concerts, on rouvre les salles, bien évidemment que je le fais, bien évidemment, je le fais tout de suite.
Mais je répète, mais là, c'est un peu implicite quand même. Si tout le monde est vacciné, il n'y aura plus de circulation du virus. Bon, merci John.
On verra bien.
Merci beaucoup John.
Merci,
vous êtes
Pascal,
directeur d'école de musique. Qu'est-ce que vous enseignez comme instrument?
Professeur de saxophone.
Ah, oh, c'est bien ça.
Ouais.
Ça, c'est bien ça.
Mais par exemple,
c'est facile.
Comment?
C'est facile à apprendre le saxophone?
Bien évidemment.
On peut apprendre, par exemple, à 55 ans, le solfège.
Bien évidemment. Monsieur Pro, si vous faites un petit tour par Violaine, je vous invite à venir me faire un coucou quand les adultes
auront
le droit de venir.
Mais combien de temps il faut entre le moment où je commence ma première leçon et le moment où je sais jouer un peu du saxophone?
Ah bah écoutez, si vous êtes motivé et que vous travaillez un petit peu chez vous, en quelques semaines, vous allez déjà réussir à jouer quelques notes et des rythmes, etc.
Ah bon?
Oui. Bien sûr.
Damien Béchiot, regardez, il nous a sorti une petite musique de saxophone.
Non, parce c'est que moi, Pascal.
Je vais vous dire, pour beaucoup de gens, c'est un rêve de jouer de la musique.
Eh ben,
et c'est un tel mystère.
Ah oui, mais il faut ouvrir la porte de ce mystère. Mais non. Quand on a envie, franchement, j'ai beaucoup d'adultes. La moitié de ma classe, c'est des adultes.
Et faut apprendre le solfège ou faut apprendre à l'oreille?
Oui, ouais, il faut passer par le solfège.
Vous êtes sûr de ça?
Ah bah pour pouvoir lire des partitions et pour jouer ensemble, c'est beaucoup plus simple de connaître le solfège, c'est un petit peu l'alphabet, hein. C'est l'alphabet.
Je sais.
Voilà.
Merci John.
Merci.
13h37, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alors, cette fois-ci, nous sommes avec Jérémy, et ce serait bien quand même que nous ayons des auditeurs qui soient pour le passeport vaccinal, et pourquoi pas pour le vaccin, parce que c'est un défilé pour le moment de défiance. Donc, je ne suis pas sûr, en plus, que ça reflète tout à fait l'opinion publique. Bonjour, Jérémy.
Bonjour, Pascal. Bonjour, les auditeurs d'RTL.
Et merci.
Moi, je suis pour, à 100%, le passeport vaccinal, et pour le vaccin, du coup, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je suis un épicurien et que je veux vite retrouver ma vie d'avant. J'aime la France des bistrots, la France des restos, la France qui vit, qui bouge, qui fait la fête. Ça, c'est une raison qui est chère à mon cœur.
C'est une bonne raison.
Voilà. La deuxième raison, c'est que tout le monde s'offusque d'un passeport vaccinal, mais le passeport vaccinal existe. Ça s'appelle le carnet de vaccination qu'on doit présenter dès le plus jeune âge, à l'école, à la crèche, en colonie de vacances ou en inscription de centre aéré. Moi, j'ai 3 enfants. À partir du moment où je ne donne pas le carnet de santé et le carnet de vaccination de mes enfants, on ne valide pas leur inscription pendant les vacances scolaires. Donc, c'est une forme de carnet vaccinal. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que je pense que tout le monde a attendu avec impatience ce vaccin durant le premier confinement. Les gens n'en pouvaient plus du confinement total. Les gens n'en pouvaient plus du masque. Les gens voulaient un vaccin, eh bien maintenant nous avons le vaccin. Eh bien tant mieux, j'ai envie de dire. Faisons-nous vacciner, même si je comprends tout à fait, si je comprends tout à fait que des gens ne veulent pas se faire vacciner, c'est leur droit le plus absolu puisque ce vaccin n'est pas obligatoire. Mais dans mon raisonnement, les gens qui prennent des décisions comme c'est le cas de Geoffrey à la fin qui a dit ben, « moi j'assumerai de ne pas me faire vacciner », eh bien il devra assumer jusqu'au bout et ne peut-être pas recouvrir sa vie d'avant.
Non, mais tout ce que vous dites est cohérent, Jérémy. J'ai pas grand-chose à ajouter. En plus, c'est votre avis. Vous n'avez pas peur, manifestement. Vous êtes au contact, vous, de beaucoup de personnes, par exemple, dans votre activité?
Bah, moi, je suis dans le commerce, donc je vois du monde tout au long de la journée. Je respecte les gestes barrières. Je porte mon masque. J'ai du gel à côté de moi. Je me tiens à bonne distance. Si on doit être dans une pièce, eh bien, on ventile la pièce. Je respecte les gestes. Mais moi, je me dis, maintenant qu'on a la science a avancé, donc je me dis, pourquoi se priver d'une piste que tout le monde a attendue, que la planète entière a attendue, et nous, les Français, sous prétexte qu'on a de la défiance vis-à-vis d'un gouvernement, alors que le gouvernement, déjà le vaccin n'est même pas français, le gouvernement, je pense pas qu'il a eu des pressions sur des labos, je pense que, justement, ça a été très vite, et quand j'entends une docteure qui passe sur votre antenne et qui dit « moi, je vais attendre un petit peu de voir le recul, pour voir un petit peu le recul en médecine, minimum, c'est 10 ans. » Donc, est-ce qu'on va vivre comme ça pendant 10 ans pour attendre le recul du vaccin? En tout cas, moi, dès que je peux me le faire injecter, je serai le premier à faire la queue devant le labo.
Tout à l'heure, il y avait quelqu'un sur l'antenne qui disait que, à l'occasion d'un dîner, elle demanderait à ses convives s'ils sont vaccinés. Et s'ils ne le sont pas, ils ne viendraient pas dîner.
Ouais.
Vous ferez la même chose ?
Non, pas du tout, puisque moi je serai vacciné, donc je serai protégé. Donc après, le problème des gens qui refusent de se faire vacciner, selon moi, je vais faire un parallèle, c'est un peu comme les gens à l'époque de la ceinture obligatoire qui ont dit « Oui, mais c'est quand même ma vie dans mon auto ». Si je n'ai pas envie de porter la ceinture, c'est mon droit. Effectivement, ne pas porter sa ceinture, ça n'a jamais tué personne à part sa propre personne. Le problème, c'est que ça, c'est encore une fois un intérêt particulier qui prime sur l'intérêt général et où ça nous coûte des fortunes à notre système de santé parce que, malheureusement, je le souhaite à personne, mais les gens qui sont accidentés de la route ou les gens qui sont malades du Covid, eh bien, il faut les soigner, il faut les opérer, il faut les appareiller. Et ça, c'est un coût pour la société. Donc moi, si je me fais vacciner, alors est-ce que je serai encore contaminant? Je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs études. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi, je ne serai pas contaminé. Donc on ne devra pas me soigner. Je ne serai pas une charge pour la société. Ça, c'est une évidence. C'est comme porter le masque. On a toujours dit, on porte le masque pour protéger son interlocuteur, pas pour se protéger soi-même.
C'est un peu des deux, mais j'entends ce que vous dites. Merci beaucoup, Jérémy, pour ce témoignage. Et on va refermer le chapitre passeport vaccinal et vaccin, puisqu'on va aller maintenant sur le couvre-feu. Vous savez qu'il y avait un conseil de défense aujourd'hui. A priori, la piste confinement national général est écartée. A priori, la fermeture des écoles est écartée. A priori, la fermeture des cantine scolaire est écartée et reste la possibilité du couvre-feu et ce serait annoncé demain, couvre-feu généralisé ou pas à 18h. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a d'ailleurs des études précises qui montrent l'efficacité du couvre-feu? On va pouvoir en parler, notamment avec Guillaume, Christophe et Sophie qui nous attendent. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pour ou contre un couvre-feu à partir de 18h, pourquoi pas dans toute la France? On est avec Guillaume, on est avec Christophe. Guillaume est plutôt pour, et si j'ai bien compris, Christophe est pour plutôt contre. Guillaume, tout d'abord, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, vous avez dû mélanger vos fiches.
Vous êtes contre?
Tout à fait hostile, ouais, au couvre-feu. D'abord parce que c'est toujours la main tremblante que l'exécutif doit s'attaquer à des libertés individuelles. Donc il faut, quand on s'attaque à des libertés individuelles, vérifier que ce soit strictement proportionné et tout à fait justifié. Là, la justification, c'est en vain qu'on la cherche.
Bah, on considère qu'il faut limiter les interactions.
Alors, ça vous aura pas échappé, Pascal, que nous sommes en hiver. Moi, je suis à Bourgueil et ce soir à Bourgueil, le soleil se couchera à 17h32. Et sur 80% du territoire national, c'est-à-dire dans nos villes et nos villages, les gens sont chez eux au coucher du soleil. Si dans certains endroits, il y a des rassemblements de population après 18h, il faut que le couple maire-préfet installe des couvre-feux dans ces endroits où il y aurait des problèmes. Mais sur 80% du territoire national où il n'y a absolument aucun problème de concentration de population après 18h, alors il y a d'autant moins de concentration de population que les bars sont fermés, les restos sont fermés, les cinémas sont fermés, les théâtres sont fermés, donc on ne voit pas bien ce qu'on ferait dans la rue après le coucher du soleil.
Non mais ce qui est terrible, c'est que ce que vous dites est imparable, quoi. C'est ça qui est compliqué, parce que c'est très difficile d'apporter des arguments parfois. C'est comme le cinéma qui est fermé, en fait, il n'y a pas d'argument.
Alors, le gouvernement, pour le couvre-feu, dispose de faux arguments, puisqu'on nous parle régulièrement de la question de la Guyane. La Guyane, c'était en été, et donc on peut imaginer qu'en été en Guyane, il y a des rassemblements de population après 18h, et que peut-être que cette mesure a été utile en Guyane pendant l'été, mais en hiver en France, ça n'a pas de sens. La seule conséquence que ça va avoir, c'est que en empêchant les gens de faire leurs courses après 18h, on va les obliger à se rassembler tous le week-end dans les grandes surfaces, donc augmenter les flux de population et donc augmenter la circulation du virus. Et dans les grandes villes, on obligera les gens à prendre les transports en commun exactement tous à la même heure. Donc là encore, augmenter les concentrations de population et augmenter la circulation du virus. Moi, j'ai pas de
D'autant
solution.
D'autant que le couvre-feu, est-ce qu'on aura le droit de sortir après le couvre-feu pour aller, par exemple, dans un magasin alimentaire, ou est-ce que ce couvre-feu sera... il y aura une attestation avec ce couvre-feu? Je n'en suis pas sûr. Parce que quand on était dans un confinement, au moins on pouvait sortir pour aller acheter dans un magasin alimentaire des produits nécessaires. Est-ce que ce sera accompagné, cette mesure d'attestation? Je n'en sais rien. Mais Christophe va vous répondre, puisque Christophe, lui, il est précisément pour... un couvre-feu et peut-être même un confinement général. Bonjour Christophe.
Bonjour Pascal. Alors attention, je suis pour. Alors moi, je suis pour, à minima, on va dire, le couvre-feu le soir, à partir de 18h, et un confinement le week-end. Parce que voilà, j'aimerais bien qu'on m'explique comment les taux ont pu exploser alors que les restaurants, tous les lieux de vie sont fermés. Donc les augmentations, elles se sont faites où? Chez les gens, dans les familles.
Oui, mais si vous voulez faire, vous n'avez pas supprimé les gens. Hein. Je suis d'accord avec vous, mais vous n'avez pas supprimé les familles.
Bah oui, mais attendez, moi c'est pareil. Hein. Vous savez, je suis comme tout le monde. Hein. J'ai été privé de mes enfants pendant 2 mois. En plus, moi, ils habitent loin. Ils travaillent à l'extérieur. On ne prive pas les gens, mais à un moment, il faut aussi être responsable. Moi, j'habite la campagne. Je passe devant des maisons où il y a 3, 4, 5 voitures tous les dimanches chez les gens. Ils mangent entre eux. Personne ne respecte rien. Le couvre-feu à 18h, je peux vous dire que dans certains coins, attendez, moi j'ai des bars où les mecs ils servent encore à boire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Vous avez des bars ouverts, vous?
Bah oui.
Vous connaissez, mais sérieusement, Christophe, vous connaissez des bars ouverts? Vous habitez où? Vous êtes dans quel secteur?
J'habite à la campagne, en Seine-Maritime. Je peux vous dire que les mecs qui font bar tabac, bah, dans un petit coin, il y a toujours un ou deux mecs qui boivent au bar. Et puis sans respect, et puis le mec du bar, il a pas le masque, et puis basta. Donc comment voulez-vous que dans un pays comme le nôtre, mais c'est partout, attendez, je vous en trouve tous les jours, hein. Venez avec moi, je vous emmène, on fait une tournée dans la journée, on fait fermer 50 bars.
Non, mais ça doit être, effectivement, j'imagine, dans un petit village tel que vous le décrivez, à la campagne, dans l'arrière-salle d'un bar tabac, et que deux personnes boivent un verre.
Je parle à la campagne, c'est pas le patelin où il y a 300 habitants, hein. C'est quand même des villes où il y a 2, 3, 4 000, 5 000 habitants. Mmh. Voilà.
Donc vous êtes pour un confinement plus strict, c'est ça?
Attendez, le seul moment où ça s'est calmé, la maladie, c'est quand on a fait un confinement. Alors après, c'est un confinement total, c'est compliqué, parce qu'il faut que l'économie aussi puisse arriver à continuer. Moi, je pense qu'on a un gouvernement qui tergiverse de trop.
Allez, Guillaume vous répond. Guillaume.
Encore une fois, c'est toujours la main tremblante qu'on doit s'attaquer à nos libertés fondamentales. Je crois que ça, c'est vraiment important. Il faut qu'on revienne à un peu de bon sens. Je ne sais pas si les clients des bars clandestins là qu'on décrit en Seine-Maritime sont contaminés par le virus. C'est ça ce qui serait intéressant. S'il y a eu des clusters ou des foyers, c'est très grave. Ce que nous décrit votre auditeur, pardon, j'ai oublié son prénom.
Mais Christophe. Mais si,
Voilà. Donc, s'il y a eu des foyers dans ces barques clandestins en Seine-Maritime, c'est très, très grave. Bon, s'il n'y a pas eu de foyer, disons que peut-être que les gens ont voulu retrouver
un disons que c'est très grave. C'est, en tout cas, c'est pas forcément voilà, responsable.
Il n'y a eu aucune contamination suite à ça. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de priver les gens de liberté? Parce qu'évidemment, oui, les gens ont envie de partager un verre ensemble. C'est finalement extrêmement humain comme attitude et peut-être qu'il faudrait en revenir à ce bon sens. Donc, il faut faire attention. Moi, je suis étonné, Pascal, parce que vous répétez assez souvent que le gouvernement applique le principe de précaution et c'est pour ça que les mesures sont drastiques. Elles sont étonnamment peu drastiques. J'étais à Paris il y a quelques semaines. Évidemment, vous le savez bien, le métro est ouvert. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas s'attaquer d'abord, si vraiment il faut limiter la circulation du virus, aux endroits où il y a des fortes concentrations de population?
Mais on peut rester chez nous pendant 6 mois, c'est toujours pareil. C'est un équilibre, Guillaume. Évidemment que les gens doivent travailler. Les gens doivent travailler. Mais Guillaume et Christophe, je vais être obligé d'écourter notre conversation parce que je voulais qu'on prenne un charcutier. Alors, restez peut-être avec nous et vous pourrez intervenir entre 14h et 14h30 parce que là, on parlera précisément de ce couvre-feu et déjà vous avez amorcé la conversation, mais juste Jean-Pierre, j'avais demandé à charcutier, eh bien il est charcutier à Nantes.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes où dans Nantes?
Alors, je suis à Talensac, bonjour.
Talensac, c'est le grand marché de Nantes, Talensac.
Voilà, ouais. Vous connaissez Pascal?
Mais bien sûr.
Merci de m'accueillir.
Ben non, merci à vous surtout. Alors vous, si les clients, on ne leur vend plus de jambon rose, est-ce qu'ils vont être fâchés?
Non, pas du tout, parce que moi déjà, ça fait 20 ans que je suis à Talensac. Et ça fait pratiquement une bonne quinzaine d'années que je fais du jambon qui est retour au jambon blanc. On va dire que du sel effrité, j'en mets dedans, mais un tout petit peu. Et le reste de ma charcuterie, je mets vraiment que du gros sel que j'achète chez Lionel.
Mais il est de quelle couleur alors le jambon?
Eh ben le nôtre, il est un peu grisâtre, mais il est blanc. Il retourne sur un blanc, si vous voulez, voilà. En fait, moi, dans la recette, j'ai connu des passages un peu durs. Et même le sel effrité coûte plus cher que le gros sel. Et je mettais que du gros sel dans mon jambon blanc. Et aujourd'hui, j'en remets un petit peu du sel effrité dedans. Mais aujourd'hui, du coup, je vais vraiment arrêter de mettre du sel effrité complètement.
Bon, ça ne perturbe pas les clients, c'est ce que vous nous dites.
Non, exactement.
Et puis, ça après, change le goût?
Ça change. Non, c'est pas ça qui fait le goût en fait. Là, le sel effrité, il va servir à une chose, à colorer et surtout à conserver le jambon. Donc, après, dans toute la charcuterie, on en met. Il y en a qui vont en mettre dans le saucisson l'ail, il y en a qui vont mettre dans le cervelas, il y en a qui vont là. Et moi, j'en mets pas du tout dans mon saucisson l'ail. J'en mets pas du tout dans mes terrines.
Ça se vend encore le saucisson à l'ail?
Oui, exactement. Ah oui,
j'ai l'impression que c'était un plat ancien un peu et que c'est moins présent aujourd'hui.
Non.
Mais le saucisson sec se vend davantage.
Alors le saucisson sec se vend très bien, mais du coup le saucisson là et nous on le fait haché gros comme dans le temps, vous voyez, avec moi je travaille au moulin comme d'habitude, enfin comme on n'aurait jamais dû s'arrêter et du coup on le vend très bien.
Écoutez, merci.
À ma grande surprise, il plaît très très bien aux femmes.
Le saucisson là, il plaît aux femmes?
Ouais, exactement. Moi je ma femme en raffole
non.
Et après, Ben oui.
Votre femme raffole du saucisson à l'ail.
Oui, et moi aussi je suis surpris de ça, parce que l'ail, vous savez bien comment c'est.
Bien sûr.
Et
puis le saucisson aussi.
Oui.
Forcément. Merci.
Merci de m'avoir écouté.
Parce que le saucisson, ça peut faire grossir, disons-le.
Oui,
c'est riche en calories, donc.
Oui, mais aujourd'hui, avec modération, ça se passe très bien.
Merci beaucoup, cher Jean-Pierre. C'était un plaisir que de vous avoir. Olivier Bois, dans une seconde.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
14h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Êtes-vous favorable au passeport vaccinal? C'est notre question entre 14h et 14h30. On est déjà avec Bertrand. Oui ou non? Bonjour Bertrand.
Bonjour Pascal. Je suis contre.
Eh bien, vous nous expliquerez pourquoi. Olivier Bois, le rappel des titres.
Pas de reconfinement généralisé, mais un couvre-feu à 18h étendu plus largement en France. C'est toujours l'hypothèse qui circule à l'issue du Conseil de défense ce matin à l'Élysée. Tout est question de dosage, on l'a dit, et c'est demain qu'on connaîtra les arbitrages au cours d'une conférence de presse. L'un des enjeux est de prendre les bonnes décisions préventives pour éviter une propagation exponentielle du variant britannique du coronavirus. Il représenterait, selon les estimations du Conseil scientifique, actuellement 1% des 19 ou 20 000 cas détectés tous les jours en France. La souffrance psychologique des jeunes et des étudiants, on en parle beaucoup en ce moment dans ce contexte justement du Covid. Une étudiante lyonnaise a menacé de se défenestrer hier de sa résidence universitaire. Elle a été empêchée par ses camarades. Pas de traces de mots retrouvés, mais l'un de ses amis a évoqué sur les réseaux sociaux le contexte actuel d'isolement que ressentent beaucoup d'étudiants. L'actualité sportive est Teddy Riner, notre champion de judo en grande forme à Doha pour son premier tournoi depuis sa défaite l'année dernière à Paris. Il est en finale ce soir à 17h. Il a gagné les trois tours de ce matin par Hippon. Et puis en football, la finale du Trophée des Champions ce soir, 21h, PSG-OM, au stade Bollaert à Lens. Le quintet à l'instant, l'arrivée provisoire, 8, 3, 16, 15 et 4.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Et nous continuons évidemment la discussion, Laurent Tessier, avec notre invité Patrick Vignal, qui est député de La République En Marche de l'Hérault. Je le salue.
Bonjour.
Un passeport vaccinal pour accéder à certains lieux et services. La proposition fait débat depuis la mi-décembre avec la députée UDI Valérie Six.
Nous pourrions aussi prendre exemple sur l'Israël qui octroie à chaque personne vaccinée un passeport vert, leur permettant de se rendre dans des lieux de culture, au restaurant, en définitive de retrouver une vie normale.
Un avis soutenu par le président du Modem, François Bayrou.
On peut tout à fait imaginer que d'une certaine manière, le fait de s'être soumis à la vaccination vous ouvre des portes qui jusqu'alors étaient fermées. Je pense d'ailleurs que c'est le sens naturel des choses.
Une idée qui ne séduit absolument pas le professeur Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique. Il était l'invité de nos confrères de BFM fin novembre.
Un, ça va être très compliqué. Deux, vous allez avoir des faux passeports sanitaires qui vont se créer à gauche et à droite. Trois, on crée un précédent qui est quand même grave parce que on est en train de se dire d'accord, passeport sanitaire pour la Covid, mais pourquoi pas passeport sanitaire pour le VIH, pourquoi pas ce passeport sanitaire, pour etc., etc. Donc, à titre personnel, j'y suis pas favorable.
Et à l'heure actuelle, le gouvernement ne veut pas en entendre parler.
Nous avons fait le choix en France, comme dans la plupart des pays au monde, je crois la totalité, de ne pas rendre la vaccination obligatoire. Et de fait, nous ne voulons pas donner de droit à des gens qui seraient vaccinés supplémentairement.
L'idée du passeport vaccinal me paraît choquante.
Ah oui.
Il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner.
Alors, qu'en pensez-vous ? Faudrait-il mettre en place un passeport vaccinal pour reprendre une vie normale ? Se faire vacciner et pouvoir aller au restaurant, au musée, au théâtre, à la salle de sport. Vous aimez l'idée ? Est-ce la meilleure solution pour répondre au plus vite notre quotidien ? 56% des Français se feront vacciner contre la Covid-19 selon un sondage Harris Interactive. Un chiffre en hausse. Comment l'explique le docteur Michel Simès ?
J'ai l'impression que les arguments irrationnels des anti-vaccins ne passent plus, ou du moins plus aussi bien qu'avant. Quand on crie aux cobayes, aux risques d'accidents graves, aux puces qu'on vous injecterait dans le corps pour vous surveiller et que vous voyez que finalement il ne se passe rien, bah vous finissez par douter de ce qu'on essaye de vous faire avaler.
Vous avez encore des doutes sur la vaccination. Jean-Luc Mélenchon, le chef de file des Insoumis, en a sur le vaccin ARN de Pfizer-BioNTech.
Je ne suis pas rassuré par un procédé qui est tout à fait nouveau, dont on ne connaît pas les conséquences. J'ai appris à l'école ce qu'était un vaccin, et puis il se trouve que j'ai vécu assez longtemps dans le Jura, d'où est Louis Pasteur, pour savoir ce qu'est le vaccin.
Et si vous ne souhaitez pas vous faire vacciner, l'acteur François Berléand a un message pour vous.
On est au pays de Pasteur, il y a des crétins qui pensent que le vaccin... Mais s'il n'y avait pas eu le vaccin contre la rage, il y aurait eu des milliers de morts. Et il y a des crétins qui pensent qu'on ne doit pas se faire vacciner. Bah, tant pis pour eux, ce que je vous dis. Des gens qui ne croient pas en la science sont des crétins, pour moi.
Avec nous, Patrick Vignal, député de La République En Marche de l'Hérault, auteur d'une tribune « Sonnons la charge contre le virus ».
Et je le salue, vous êtes pour le... passeport vaccinal.
Je suis complètement contre Pascal Praud. On va mettre une étoile.
Arrêtez enfin... ça, j'ai dit tout à l'heure. Non, ne comparons pas l'étoile. Franchement, ça c'est.
Vous avez raison. Vous avez raison. Désolé.
Faut enlever cette comparaison.
Raison gardée. Je suis d'accord
parce
avec
que
vous.
Là, pour
quand
le coup,
on
le
dit des conneries, on est capable
voilà,
de.
Le virus rend fou. C'est-à-dire qu'on peut pas comparer ça à cette période particulière de la France.
Mais si vous voulez, le vrai débat, en fait, c'est que il faut arrêter. On n'a pas les bonnes solutions. On essaie de trouver les moins mauvaises. Ce virus, il est sournois. Ce virus, tous les jours, il mute. Donc, on n'a pas la bonne solution. On essaie de trouver les moins mauvaises. Et on essaie de réfléchir comment on peut faire ça. Mais je vois pas l'intérêt d'un passeport. Et je vous dis pourquoi. Parce que je pense que moi, en tout cas, ce qui me concerne, si des gens de ma famille ne veulent pas se faire vacciner, à ce moment-là, peut-être que je ne leur demanderai pas de venir autour de ma table. Faisons confiance aux Français. Il ne faut pas les infantiliser. Et je pense que plus on met des mesures, plus elles sont contournées. Le vrai débat, je l'ai dit, c'est comment on sonne la charge contre ce virus. On est à 56% des gens qui veulent se faire vacciner. Ça fait 15 jours que je me bats, moi, arme au pied, en disant à la classe politique, une partie doit se faire vacciner. Des gens comme Pascal Praud, qui a un auditoire, s'il dit je me ferai vacciner. Alors, vous savez ce qu'on me répond, Pascal Praud ? C'est un passe-droit. Mais depuis quand c'est un passe-droit pour les politiques de se faire vacciner ? C'est pas 1000 doses qui vont nous manquer. Donc, il faut de l'énergie. Et ce virus, on ne le bat pas avec un bouclier, on va le combattre avec un glaive.
Mais vous avez parfaitement raison, et en tout cas ça revient beaucoup chez nos auditeurs, combien ils seraient rassurés si Emmanuel Macron, le gouvernement, pourquoi pas tous les députés...
Les people aussi. On a besoin de vous, les médecins comme Assel Kahn qui nous fait rêver avec l'enthousiasme.
Je ne suis pas un people, je suis un journaliste, mais en tout cas, je suis d'accord avec vous. Alors, si une fois dans ma vie, je peux servir à quelque chose...
Eh bien, vous allez servir, Pascal Praud.
C'est jamais arrivé
depuis que je suis né. On le fera ensemble.
Donc,
Il y a un début à tout, Pascal.
Damien, si je peux être utile, eh bien, allons-y. Bon, Bertrand, lui, il est contre le passeport vaccinal, parce qu'on peut être contre le passeport vaccinal et pour le vaccin, Bertrand.
Oui, parce que je suis pour le vaccin, mais contre le passeport vaccinal.
Pourquoi ?
Déjà, tout simplement parce que moi, je reconnais pas du tout les personnes. Vous savez, j'ai deux clubs de sport, je vois beaucoup de monde. Enfin, je voyais beaucoup de monde et je suis souvent en contact avec mes anciens adhérents. Et je retrouve pas du tout les proportions des gens qui souhaitent se faire vacciner par rapport aux sondages qui sont affichés. Pas du tout. Moi, j'ai l'impression que j'ai plus des clients autour de moi, des adhérents, qui sont à 2 sur 3 en moyenne, à pas vraiment avoir envie de se faire vacciner. Mais vous allez me demander pourquoi, je vais vous répondre. Parce que je pense que c'est toujours une bascule entre le bénéfice-risque. Vous savez, les gens qui sont entraînés, on a eu des cas de Covid autour de nous, hein, mais les cas qui ont été très graves, il n'y en a pas beaucoup.
Bertrand, je le dis tous les jours, c'est la difficulté de ce vaccin. C'est-à-dire si ce vaccin était mortel comme Ebola ou la variole, on n'aurait pas ces sujets-là, puisque chacun voudrait se faire vacciner le plus vite possible. La difficulté, c'est que pour les gens qui vont faire du sport, qui ont 40 ans, ils ne se vaccinent pas tant pour eux, bien évidemment, parce qu'ils ne risquent sans doute statistiquement, en tout cas, pas de se retrouver en réanimation, mais ils se vaccinent pour les autres pour ne pas diffuser le virus. Donc là, c'est sans doute une première pour un vaccin. Donc il faut essayer de les convaincre d'aller vers un acte de solidarité, si j'ose dire, ou de civisme.
Pascal, je vais sortir de mes gonds parce qu'on nous parle de solidarité, mais parce que ça fait 6 mois qu'on va être fermé. Nous, on aura eu 6 mois de fermeture au niveau des clubs de sport et on nous parle de solidarité.
Mais c'est moi qui vous en parle. Monsieur Vignal vous répond.
Mais Bertrand, vous savez quoi, Bertrand ? Je suis comme vous. J'ai un complexe sportif que j'ai monté à l'âge de 20 ans. Hier, j'étais à l'Assemblée nationale avec les groupes privé et groupe fitness pour discuter de cette réouverture. Moi, j'écris à tous mes licenciés en disant, vous voulez m'aider, vous voulez retrouver vos cours de tai chi, de qigong, vous voulez retrouver une vraie envie de faire des choses parce que ce virus, on le battra avec de l'énergie. Et donc, moi, je leur demande de se faire vacciner. Et Pascal Praud l'a dit, pas pour eux, pour les autres. Donc, si vous voulez m'aider à rouvrir votre club de sport parce que vous êtes passé d'essentiel à indispensable, parce que ce virus, on le battra aussi avec de l'énergie, parce que les gens, vous avez vu la détresse psychologique dans laquelle on sont, il faut que les gens fasse de l'activité. Donc aidez-moi, Bertrand, à faire vacciner vos adhérents. Il y a 12 millions de Français qui font de l'activité. Donc arrêtons d'être à genoux, redressons-nous, parlons pas de complotisme, avançons ensemble. Moi, je veux aussi qu'on ouvre les salles de sport. Je suis allé voir à Marseille, je l'ai d'ailleurs sur moi, un masque spécial fitness qui permettrait de reprendre l'activité, Bertrand. Aidez-nous. Il nous faut une France unie. Il faut une France solidaire. Il faut se taper ce virus. Et si on n'est pas ensemble, si on ne chasse pas en meute, on n'arrivera pas à se sortir de ça.
Bertrand, vous répondez après la pub. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Bertrand est avec nous et il va répondre à Patrick Vignal qui lui demandait de l'aider. Et je rappelle que Patrick et Vignal est député de La République En Marche de l'Hérault. Bertrand, est-ce que vous entendez, j'allais dire, le cri, l'appel de Monsieur Vignal ?
Moi, je peux l'entendre, mais lui aussi, il faut qu'il m'écoute un peu. Parce qu'on parlait de solidarité. Moi, je pense que nous, on a fait vraiment preuve de solidarité au niveau de la profession. C'est énorme depuis le temps qu'on est fermé. Et je propose, moi, une solidarité inversée. pourquoi à partir du moment où on n'aurait pas la capacité de déterminer le pourcentage de gens qui terminent à l'hôpital, de dire à ces gens-là, bah, écoutez, voilà, vous faites partie d'une classe qui est en danger, tant que vous n'êtes pas vacciné, n'allez pas dans des clubs de sport, n'allez pas dans des restaurants.
Oui, mais les gens qui sont en danger et fragiles, ils ne vont naturellement pas dans les clubs de sport. C'est les gens qui sont dans des EHPAD, c'est des gens souvent qui ont des comorbidités, etc. Je ne pense pas que ce soit la clientèle spécifique des clubs de sport. C'est ça le paradoxe, c'est que les gens qui rentrent chez vous, ils sont en pleine forme. Mmh. Et c'est eux, d'une certaine manière, qu'il faut précisément, parce qu'ils sont en pleine forme, convaincre de se faire vacciner. Oui. Et ce n'est pas simple, la preuve, Bertrand.
Oui, mais à partir du moment où les gens à risque sont vaccinés, le problème se pose plus.
Ah, ça, c'est pas faux ce que vous dites. C'est-à-dire que s'il y a 13 millions de gens vaccinés fragiles, ils n'entrent plus en réa. Ça, je suis d'accord
avec
vous.
Exactement.
Non, mais ça, c'est vrai.
Je voulais quand même vous dire, moi, je suis absolument pas sur la théorie complotiste. Hein. Je pense que les gars, les députés, le gouvernement et tout, ils essayent de faire de leur mieux. Je ferais pas mieux à leur place. C'est hyper compliqué. Donc, on est d'accord avec ça. Faut sortir de ça. Mais il y a un truc que j'aimerais bien savoir, Pascal. Et à ma connaissance, personne n'a posé la question. Et moi, je l'ai pas trouvé sur Internet. Vous savez que quand vous commandez un produit, quel qu'il soit, au niveau du contrat, vous avez des clauses de responsabilité, vous avez des clauses de garantie, etc. Moi, j'aurais souhaité avoir un petit peu un visuel sur le contrat que l'Union européenne a pris avec les fabricants de vaccins, avec les laboratoires, et savoir quelle était la clause de responsabilité des fabricants en cas de problème à venir dans les années qui viennent.
Cher Bertrand, de quelle ville vous êtes ? Dans quelle ville vous avez votre club ?
Moi, je suis à Sifour et à Sanary.
Bon, ok. Je vais vous dire, Bertrand, on est très mal en France en ce moment. Et ce qui arrive, ça sera encore plus compliqué dans la gestion de l'après-Covid. Moi, je pense aussi aux bars, aux restaurants. Dans ma région, c'est des manadiers. Ils abattent leurs bêtes, ils ne peuvent pas les vendre parce que les restaurants sont fermés. Donc, je vais être clair, vous êtes comme moi chez l'entreprise. Il y a aussi une prise de risque. Mais franchement, Bertrand, sur le vaccin, c'est tellement bénin. Il y a des millions de citoyens qui sont fait vacciner. À un moment donné, Bertrand, on doit faire confiance. Quand vous investissez dans votre club pour acheter des machines, quand vous mettez de l'argent à crédit pour essayer de vous en sortir, vous prenez un risque. Oui. Donc, venez m'aider, Bertrand. Hier, on était 200 clubs de finesse. On sait qu'on est devenu plus qu'indispensable. On aura besoin de vous. J'ai des soignants de Clermont-Ferrand qui m'ont écrit en me disant, ouvrez les salles de gym parce qu'on passe 12 heures, c'est anxiogène, on veut se libérer. Donc, nous posons plus la question, Bertrand. Agissons ensemble. Aidez-moi, vous, les bars, les restaurants, les entreprises. Il faut qu'on ait cette idée d'arrêter d'avoir le bouclier. On ne peut plus avoir peur contre ce virus. Maintenant, on va l'attaquer, ce virus. On va se le faire. C'est cela, mon message.
Patrick, en ce qui me concerne, les proches, on n'a absolument pas peur du virus. Et en quoi le fait de poser des questions qui sont légitimes ? Vous me parlez de l'achat d'équipement. Moi, si j'achète l'achat d'un équipement qui est un peu moderne et qui est un peu avant-gardiste, moi, je vais dire au constructeur, écoute, t'es sûr de ton coup ? Il va me répondre oui. À ce moment-là, tu me mets une garantie supplémentaire. Et s'il ne me la met pas, c'est que je sais qu'il y a un problème. C'est ça que je voudrais savoir.
En quoi
ça peut occulter l'envie de se faire vacciner que de poser les bonnes questions et d'avoir des bonnes réponses ? Au contraire, ce serait une pierre supplémentaire à votre édifice.
Bertrand, vous posez vous-même un débat. Vous voulez réouvrir, on a besoin de réouvrir. Et donc, à un moment donné, je vais vous donner un exemple précis. J'ai des collègues parlementaires qui m'ont dit on devrait faire une commission spéciale pour évaluer les vaccins. Bertrand, on est en guerre. Et quand on est en guerre, on doit être capable de se lever et de lever une armée. C'est ça. Vous savez, j'ai un masque finesse, moi. Certains de vos confrères m'ont écrit me disant mais nous, on ne va pas investir pour le masque. Certains me disent, et c'est vrai, les 10 000 euros que donne l'État suffisent à pouvoir rester chez nous. On est en guerre, et je le dis d'ailleurs à ma majorité, on n'a pas tout donné, Bertrand. On n'a plus le temps tous les deux de réfléchir en se disant est-ce qu'on a une nomenclature ? Faites confiance aux médecins.
Non.
Cette France, elle fait confiance en personne.
Oui, je fais confiance aux médecins.
Et alors allons-y ensemble.
Mais je voudrais avoir un petit peu plus d'informations. Là, vous me parlez d'un point précis du masque.
Des infos, il y en a quand même, Bertrand. Des infos, il y en a. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est quoi le plus d'informations ?
Regardez, là, on parle de masque fitness. Vous avez déjà essayé de faire du sport avec un masque ? Est-ce que le masque, il va être homologué DGA ?
Bertrand, je vous invite. Alors, avec Christophe Andanson, j'étais à Marseille.
J'ai fait une heure de bike et je peux vous dire que
ça marche très bien. C'est pas l'idéal, mais au moins, on ouvrira, Bertrand. Tu veux ouvrir ton club et tu me dis les masques. Mais comment on va faire sinon ? Sincèrement, merde, t'es sportif comme moi. Prenons un petit risque. Patrick, allons-y, ensemble.
Je connais Christophe depuis 24 ans.
Ah ben très bien, alors tu vois qu'on a que des amis. Alors allons-y ensemble.
Moi, je te dis une chose, Patrick, je suis pas du tout convaincu, et là, je le vois autour de moi déjà, que les gars qui vont pratiquer du sport veuillent mettre un masque. Et ces gens-là, ils vont aller faire du sport en extérieur, ce qui sera tout à fait légitime.
Bertrand, on peut faire les deux, t'imagines? Bien sûr que le masque n'est pas l'idéal. Moi, je suis avec Pascal Praud, j'ai plus envie d'avoir un masque sur la tronche. J'ai plus envie de ne pas embrasser mes enfants. J'ai plus envie de plus serrer la main. On est des latins, on a envie de convivialité. Mais pour l'instant, on se bat contre le virus. Donc, viens m'aider, on met un masque, on ouvre nos clubs et on avance.
Mais non, Patrick, on va pas tourner. On a 70%, nous, c'est des cours collectifs intenses avec de la boxe et du RPM, du body pump. On tournera pas avec un masque. Les gars voudront pas le mettre.
Bon, Bertrand.
Ça va être rédhibitoire.
Oui, en tout cas, l'échange, moi, je suis pas intervenu parce que je trouvais que l'échange était intéressant.
Oui, il était riche.
Non, mais c'est très intéressant. Et en même temps, il y a un moment, il va falloir quand même que chacun puisse aller vers l'autre pour trouver une négociation possible. Alors le gouvernement peut peut-être lâcher la bride sur des restrictions, mais en même temps, il faut que chacun accepte peut-être l'idée de se faire vacciner. Même si la liberté individuelle doit être préservée là-dedans, bien sûr. Mais depuis le départ, moi je dis, on pourrait se réconcilier sur le vaccin. Vous voyez, on a été assez sévère sur la gestion de la pandémie. Il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont c'est organisé. Mais on pourrait se réconcilier sur le thème. C'est efficace, c'est utile et il n'y a pas de souci avec ce vaccin. 14h18, à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
On va dire au revoir à Guillaume parce qu'il attend depuis un moment. Il était intervenu tout à l'heure sur le couvre-feu et puis le flash de 14h arrivait. Là, on est davantage sur le passeport vaccinal et la vaccination. Guillaume, sauf si vous avez un mot à rajouter au débat qu'on vient d'avoir ensemble, Guillaume.
Je suis atterré, Pascal. Je suis atterré parce que je suis intervenu sur votre antenne et j'ai parlé de liberté fondamentale parce que ça me paraît important de les défendre. Normalement, c'est le boulot des députés de la République de défendre les libertés fondamentales. Et ils ne le font plus. Par contre, le député de la majorité qui est intervenu sur votre antenne...
Il est là, vous pouvez lui parler.
Il nous a fait un parallèle entre passeport vaccinal et étoile jaune.
Mais il l'a retiré tout de suite. Il l'a retiré une seconde après.
Oui, enfin, attendez, c'est extraordinairement grave. Et après, il vient nous parler de France Unie et Solidaire. Est-ce qu'on va faire une France Unie et Solidaire avec des députés de la majorité qui tiennent des propos comme ça sur votre antenne?
Il l'a retiré dans la seconde, il est à côté de moi, il va vous répondre.
Vous savez, cher monsieur, là, en fait, vous amenez un débat politique. Je m'excuse. Ça va? Vous voulez que je fasse quoi? C'est vrai que c'était mal dit et mal donné. Mais je peux être une différence, elle est certaine. Je n'ai pas d'éléments de langage de mon groupe. Je viens de dire ce que je pense. Donc je vous le répète, cher monsieur, je vous prie de m'excuser et je l'ai dit 3 fois à l'antenne. Maintenant, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je suis contre ce passeport parce que je ne veux pas fliquer les gens. Par contre, vous avez vu l'auditeur précédent, moi j'ai envie qu'on s'en sorte. J'ai envie que les étudiants aient une espérance de vie. J'ai envie que les bars, les restaurants, le monde de la culture qui est à genoux et les salles de sport ouvrent. Donc il est temps qu'on ait effectivement plus qu'une France unie, il est temps qu'on fasse tous corps contre ce virus. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, on n'a jamais trouvé les bonnes solutions, on essaie de trouver les moins mauvaises. Et on a besoin de tout le monde, de tous les Français, de la société civile et de toute la classe politique. Voilà, est-ce que j'ai été clair?
C'est parfait, monsieur le député.
Voilà, et excusez-moi encore une fois. Et venez nous aider, je ne sais pas dans quelle ville vous êtes. Je vous enverrai ma tribune si vous voulez. Il faut qu'on convainque les 30% qui manquent. On doit vacciner 70% de gens. Vous savez, je vais vous le dire. J'ai fait une conférence de presse dans ma région avec deux exécutifs socialistes. Il y en a certains qui m'ont dit, Patrick Vignal, l'AREM, il pactise avec les socialistes. Mais on est une France d'imbéciles. Je parle des politiques. On n'a plus le temps de s'empailler. On n'a plus le temps de régler les comptes.
Là, c'est vous qui politisez le débat.
Non, je vous dis juste qu'on est mauvais, la classe politique. On ne sait pas travailler ensemble.
Ça fait 10 mois que je radote. Je suis président de l'Union des commerçants de Bourgueil, qui est une ville de 4000 habitants. Ouais. Ça fait 10 mois que je radote. Ça fait 10 mois que je demande à mes parlementaires, que je demande partout, que les mesures soient différenciées entre les petites villes et les grandes métropoles.
Ça, c'est un vrai sujet, ça. Et vous avez théoriquement raison.
Ouais.
Voilà. Et moi, je suis d'accord en théorie. Et Est-ce possible d'avoir un dispositif à la carte?
Alors, il a raison. Vous savez, d'ailleurs, je défends les... Je ne sais pas si vous me connaissez, je suis président de Centre-Ville en Mouvement. Je veux réanimer les centres-villes, les réenchanter. Et là où vous avez raison, c'est qu'il faudrait réactiver le couple maire-préfet qui a fonctionné pendant la crise des Gilets jaunes.
Oui,
il faut
oui.
qu'on réfléchisse. Mais vous savez, la difficulté qu'on a, c'est comment faire France ensemble? Moi, quand je dis qu'il faut qu'il y ait plus de souplesse, d'agilité dans certains départements, les Français me disent « Oui, mais ça serait injuste ». Mais non, c'est pas injuste. En fonction de la circulation du virus, il faut qu'on puisse s'adapter.
Oui, mais ça, l'État ne le fait pas du tout.
Et l'État a du mal. L'État, vous savez, c'est un grand paquebot.
Oui,
je l'ai dit dans ma tribune.
C'est un vrai problème.
On a un système politico-administratif qui passe plus de temps à se sécuriser que travailler auprès des citoyens. Vous savez, cher monsieur, je suis commerçant comme vous. Moi aussi, j'ai envie qu'on s'en sorte. Moi aussi, j'ai envie qu'il y ait moins de faillites. Moi aussi, j'ai envie qu'on se tape Amazon, Alibaba et l'extension des centres commerciaux. Ça fait 10 ans que je me bats pour ça.
Bon, ben, merci beaucoup, Guillaume. Bruno va être notre dernier auditeur. Bruno qui est... Oui, bonjour Bruno.
Il est présent. Bonjour Pascal. Alors, tous mes voeux
c'est
à
gentil,
vous,
bonne
à
année.
Votre rédaction et à tous ceux qui nous écoutent et à, tout, et à la terre entière. Parce que le débat aujourd'hui, j'ai écouté, c'est magnifique. Alors là, j'étais le plus grand des réfractaires sur la vaccination. Aujourd'hui, je suis le premier et j'ai fait partie du premier wagon des gens qui ont pu se faire vacciner. Mais je voudrais revenir sur les paroles qui ont été données par monsieur le député.
Monsieur Vignal.
Que je salue. Oui, que je salue. Je connais très bien sa partenaire dans la Pevèle, dans le Nord, notre chère Charlotte.
Bon, ah oui, Charlotte qui a co-signé ma tribune.
Bon, vous avez 45 secondes, il faut aller très vite parce que...
En Pevèle. Ouais, alors, besoin de tout le monde. Différencier les secteurs. Le rassemblement préfet-mairie, ça, les maires, ça, il fallait, dès le début, il fallait mettre tout ça en place. Moi, je me suis fait vacciner pour plusieurs raisons. La première, j'étais un grand réfractaire, je l'ai dit, mais voilà, je sens le vent arriver, que t'es pas vacciné, la maladie est dans. Moi, je préfère. Je l'ai fait, j'aurai mon passeport, j'ai ma feuille. Maintenant, si on peut rouvrir des lieux publics en disant on s'est protégé, on y va, on rouvre progressivement, je suis content de voir que tous mes commerçants et artisans de ma région, de France et de Navarre, rouvrent le plus tôt possible.
Eh bien, c'est sur ce message positif que nous allons terminer l'émission, puisque nous sommes déjà en retard et Flavie Flamand est en régie. Vraiment, merci beaucoup, Bruno. Vraiment, merci beaucoup à Monsieur Vignal. Plein d'énergie
et bientôt,
d'enthousiasme.
On va sourire et danser ensemble, Pascal Pro,
ben
avec une belle dorade à la grande motte et un très bon rosé au mois de juin, pas avant. Donc, résilience, empathie, et
moi, j'en suis au stade où je signe pour le mois de juin, parce que je ne suis même pas sûr qu'au mois de juin, on soit tous
fous. Je vous lance un défi.
Ah bah
un
oui,
bon
bah...
rosé, une belle dorade
bah
à la grande motte.
Voir, je viendrai vous voir. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.